bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans la tribune de presse de ce vendredi 3 février 2017. Et nous parlerons ce soir d'Étienne Tshisekedi qui n'est plus. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre partout en RDC, même en Afrique, pourquoi pas dans le monde. À 84 ans, le président de l'UDPS s'est éteint d'une embolie pulmonaire mercredi à Bruxelles, en Belgique. C'était le 1er février. Cette édition de tribune est consacrée au bilan de son parcours politique et les perspectives d'après lui. Je reçois dans ce studio Alain Botoko. Bonsoir.
Bonsoir, cher ami.
Vous êtes journaliste, photographe, reporter indépendant basé à Kinshasa. Charles Kipingani, bonsoir.
Bonsoir, mon
frère. Vous êtes journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus qui paraît à Matadi dans le Congo central. Et Jean-Pierre Kayembe, bonsoir.
Bonsoir Berry, bonsoir Alain, bonsoir Charles et bonsoir à tous.
Vous êtes journaliste et responsable de la presse numérique à RTGA, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Je salue aussi Héritier Sidiakala qui assure la mise en onde de cette émission. Et je dis enfin bonsoir à Alain Hiroum qui nous présente maintenant la revue de presse. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Cette revue de presse est consacrée exclusivement à la disparition d'Étienne Tshisekedi. Alors que le programme de ses funérailles n'est pas encore communiqué, écrit Africa News, un hommage mondial est en train d'être rendu à cet homme politique qui passe pour un patrimoine national et international. Un hommage digne de ceux que l'on réserve à un héros, une légende, commente le journal. Les hommages affluent renchérit le potentiel qui reprend les propos de quelques personnalités politiques congolaises. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, nous attendons que le gouvernement puisse de manière formelle prendre toutes les dispositions pour les funérailles de cette illustre personnalité qui est un ancien premier ministre de notre pays, un ancien ministre qui a été le numéro 2 lors des élections de 2011 et qui était à la tête du deuxième parti politique au Parlement de la RDC. Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS, le rassemblement a été imaginé par le président Tshisekedi pour atteindre un objectif, à savoir l'alternance. Et bien qu'il soit mort, cet objectif reste de mise. Le phare revient sur la personnalité d'Étienne Tshisekedi, que le journal qualifie de constant, incorruptible et irréductible. Vers les adieux difficiles, prédit pour sa part la prospérité. Le journal s'attend à des adieux difficiles à Étienne Tshisekedi. Pour le quotidien, la mort de l'opposant laisse plus d'interrogations que des solutions aux différents problèmes, tant au sein de son propre parti que dans la sphère politique congolaise. La prospérité énumère une série de questions qui illustrent cette difficulté à venir. Où va-t-on pleurer Tshisekedi ? Qui finalement prendra la charge de ses obsèques ? Comment s'y prendre pour éviter des débordements au goût aigre ? L'avenir se projette vers l'avenir et s'interroge sur le leadership au sein du rassemblement. Coalition de l'opposition que dirigeait Étienne Tshisekedi. Qui prendra le leadership dans ce regroupement où les ambitions sont multiples et s'entrechoquent, s'interroge l'avenir. Tsunami sur la RDC est pris pour sa part Forum des As. Pour le journal, la mort de Tshisekedi ne sera pas sans conséquence sur la poursuite du processus des négociations du centre interdiocésain. Car le leadership de l'UDPS ne va plus de soi. Faute d'incarnation, fait savoir le quotidien. Un baobab s'écroule, écrit de son côté le potentiel. Comme Moïse de la Bible qui a obtenu de Dieu la mission de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, Étienne Tshisekedi, qui s'est longtemps battu pour la démocratie, ne verra donc pas le couronnement de ses efforts, c'est-à-dire le triomphe de la démocratie dans un État véritablement démocratique, regrette le potentiel.
Merci Alain Hiroum. Dans l'actualité de la semaine, on note aussi l'élimination dimanche 29 janvier dernier de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. C'était face au Ghana, score du match 1-2. Dans la foulée, les Léopards ont terminé à la 6e place au classement de la CAN, selon la Confédération africaine de football. Alain, vous avez suivi le match de la RDC. Comment vous avez analysé la prestation des Léopards?
D'une manière générale, le match du Léopard ne m'ont pas convaincu.
C'était tous les matchs qui ne vous ont pas convaincu?
Dès le premier match. Donc, okay. Ouais, c'est par coup de chance qu'on est arrivé au niveau du quart. Mais le constat général que j'ai, c'est que si le pays est stable du point de vue politique, il avance dans tout le secteur.
Mais le Cameroun n'est pas stable, pourtant il arrive en finale aussi.
Cher ami, ça c'est l'impression que ça donne. Si vous allez au Cameroun, j'ai été dans quelques villes du Cameroun, il y a un État qui existe, il y a des structures de vie, il y a des projets qui fonctionnent normalement, donc ils ne peuvent qu'avancer un peu.
Malgré la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les anglophones?
Oui, c'est vrai. Cette difficulté, ça existe dans beaucoup de pays, même en Belgique. Mais ça n'arrête pas le fonctionnement de l'État, une armée qui fonctionne, une police qui vit. Même si, oui, ça se sent la corruption au Cameroun, mais sinon, ce n'est pas à comparer avec la RDC.
Merci. Charles, vous avez aussi suivi le match. Est-ce que vous partagez les avis de Alain lorsqu'il dit que c'était un coup de chance qu'on arrive au quart de finale?
Non, c'est pas un coup de chance. Ça, j'aimerais dire que nous devons beaucoup féliciter Florian Ibenge, qui a pris l'équipe guinéenne parce que, en tout cas, sa présence à la tête de cette équipe a amené beaucoup d'espoir et sa présence a contribué même à la cohésion nationale parce que Ibenge est parvenu à conduire l'équipe au niveau même où nous n'attendions pas, nous les Congolais.
Mais on sait aussi qu'en 2015, la RDC était troisième à la CAN. Aujourd'hui, on sort pratiquement au deuxième tour. Est-ce que ce n'est pas quand même un échec?
Bien sûr que oui, il y a bien des fleurs à jeter. Moi, je ne peux pas être ingrat et j'ai même regretté les comportements de certains compatriotes qui pensaient que Ibenge aurait commis des fautes. Et si et on avait gagné, et tout cela ne serait pas dit. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le niveau auquel Ibenge a amené l'équipe, en tout cas, il mérite des félicitations parce qu'il a fait un travail énorme qui dépasse même le ministre qui est confortable dans son bureau.
Merci. Jean-Pierre, vous avez entendu Alain affirmer que c'est un coup de chance de la part de Florent Ibenge ou de la RDC d'arriver au quart des finales, et vous avez entendu Charles qui tissait carrément des éloges face à cette équipe nationale. Quelle est votre analyse par rapport à la prestation des Léopards qui étaient éliminés depuis dimanche dernier?
Ben écoutez, Berry, j'ai comme l'impression qu'Alain n'a pas regardé le 4 matchs livrés par les Léopards. Avec 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite, il y a de quoi féliciter cette équipe que Jean-Florent Ibenge a ramassé en lambeau. Et puis, quand on voit la Côte d'Ivoire sortir, ne pas franchir l'étape des quarts de finale et les Léopards en arriver là, il y a de quoi féliciter ces jeunes gens qui ont fait un travail impeccable. Ibenge avait quelques blessés, il avait notamment Bolassier qui n'était pas là, il fallait faire avec ceux qui étaient là. Et les garçons ont fait une prestation extraordinaire. J'ai toujours pensé que ces jeunes gens méritent des honneurs et la considération de toute une nation. Faire un raccordement frauduleux, comparer la RDC au Cameroun, la situation politique, quand ça ne va pas en politique, ça se répercute sur le sport. Non, je crois que le sport doit être en dehors de toute considération politique. Le sport doit par contre unir et non diviser. Et j'ai toujours un cœur qui bat quand je vois certains compatriotes jeter en pâture tous les efforts qui sont fournis dans tous les domaines dans notre pays.
Alors,
nous devions plutôt être nous-mêmes les ambassadeurs
d'accord.
De notre propre pays que de ternir de temps en temps son image, même là où ça n'en vaut pas la peine.
Alors, Jean-Pierre, une petite question. Vous avez vu, on a vu l'effervescence des Quinois lundi soir après la rumeur selon laquelle les Black Stars du Ghana étaient disqualifiés de la compétition. Comment vous avez analysé ce phénomène? Parce que c'est comme si la RDC rentrait dans la course carrément.
Ben, j'ai vu que les Congolais s'est défoulé en quelque sorte du traumatisme qu'ils ont encaissé après l'élimination de Léopard en quart de finale par les Ghanaiens, qui eux aussi, malheureusement, ne vont pas jouer la finale. Et puis, bon, tout est parti, il faut le dire ici, d'un vieil article qui a été publié, voilà, 3 ans, un article qui concernait le Black Stars, au moins de 17 ans, qui avait été éliminé cette fois-là face au Cameroun, disqualifié parce qu'ils ont fait jouer un joueur qui avait copé, de 2 cartons jaunes. Donc, c'était une façon de se défouler pour les Congolais, mais je crois que c'est ça aussi. Nous, le journaliste, nous avons des précisions à apporter sur Internet.
Et les devoirs d'informer précisément.
Oui, nous devons à tout moment inculquer aux gens qui nous lisent, aux internautes, comment considérer certaines informations.
Avant que Alain ne puisse vous répondre par rapport à ce que vous avez évoqué, très rapidement, le dimanche déjà, ce sera la finale de cette CAN. Elle va opposer, vous l'avez souligné, le Ghana ne va pas la jouer. Elle va opposer l'Égypte au Cameroun. Quel est votre pronostic selon vous?
Bon, je vois l'Égypte en route pour la 8e étoile. Je crois que les pharaons pourront pourrait l'emporter.
D'accord, vous n'êtes pas très loin de ce que mon collègue Alain Irung me disait avant d'entrer dans ce studio. Alain Botoko, très rapidement, vous vouliez répondre à Jean-Pierre et très rapidement aussi votre commentaire.
Mais je lui pose cette petite question. Est-ce que lui, il a vu parmi les équipes qui étaient à la CAN, une des équipes publiées dans la presse qui ne sont pas bien traitées, qui n'ont pas l'argent, qui ne peuvent pas mettre leurs pieds en jeu si rien n'est fait? Donc,
le Cameroun l'a fait.
Le Cameroun l'a fait, mais ce n'est pas un bon exemple.
Très bien. Alors, merci pour votre petite question. Alors, très rapidement, votre pronostic par rapport à la finale qui va se jouer déjà ce dimanche?
Je donne la chance au Cameroun.
Charles, rapidement, votre pronostic?
En tout cas, je pense qu'on a raison d'être solidaires aux Camerounais.
D'accord. Charles, vous venez du Congo central, je l'avais dit. Vous êtes de passage à Kinshasa. Merci de votre présence ici à la Radio Okapi. Dites-nous, qu'est-ce qui fait très rapidement l'actualité chez vous au Congo central?
Merci, Berry. L'actualité au niveau de la province reste dominée par des impayements au niveau des cabinets ministériels. Ils étaient dernièrement à 6 mois d'impayement. Je ne sais pas si la situation a évolué, mais je crois qu'elle n'a pas encore évolué. Et alors, de manière générale, la population est asphyxiée sur le plan financier. En tout cas, rien n'est depuis près d'une année sur le plan social au niveau de la province. Alors que du côté route, toutes les routes de dessertes agricoles des 10 territoires qui comptent la province sont en état de délabrement et fort avancé, et certaines sont devenues même impraticables avec comme conséquence des difficultés dans l'évacuation des produits agricoles, et c'est la pauvreté qui s'enracine. Donc le cas le plus éloquent, c'est dans le territoire de Lukula, où même la grande route jadis asphaltée est devenue l'ombre d'elle-même. Et dans les territoires des Tangracides, d'ailleurs, c'est l'ONG Action pour la gouvernance locale qui a regroupé des hommes et des femmes, en tout cas qui se sont décidés de se prendre en charge pour assurer l'entretien de manière manuelle de leur route. Donc la situation est comme telle.
Merci beaucoup, et nous voici dans les débats sur le décès d'Étienne Tshisekedi qui commence d'ailleurs maintenant. D'abord, je plante les décors. Étienne Tshisekedi n'est plus le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, est mort d'une embolie pulmonaire mercredi 1er février à Bruxelles. Yachichi, comme aimait l'appeler la population congolaise, ou le sphinx de Limété pour les médias, quitte la terre des hommes à l'âge de 84 ans. Il est considéré à ce jour comme l'opposant politique le plus connu en RDC. Qui était véritablement Étienne Tshisekedi? Tentative de réponse avec vous, Donna Madimba.
C'est dès les premières années du Congo indépendant que son mariage avec la politique commence. À 28 ans à peine, en 1960, Étienne Tshisekedi est déjà adjoint du ministre de la Justice de l'époque. Et c'est 5 ans après qu'il occupe son premier poste de ministre titulaire, celui de ministre de l'Intérieur en 1965. Mais entre-temps, c'est-à-dire de 1961 à 65, il occupe le poste de recteur de l'ENDA, École Nationale de Droit et d'Administration. Yachichi, comme le peuple aimait bien l'appeler affectueusement, collabore en 1967 à la rédaction de 2 documents importants du pays. Le manifeste de l'Ancelé, qui inspire plus tard la création du parti État, le MPR, mais également la première constitution du pays, celle de Luluabourg. En 1980, le président de l'UDPS critique dans une lettre et avec 12 autres de ses collègues députés la gestion Mobutu du pays. Lettre qui sera baptisée « Lettre ouverte de 13 parlementaires » nés à Kananga au Kasaï occidental en 1932 et le tout premier diplômé en droit du Congo en 1961, le sphinx délimité a surtout marqué l'histoire pour 2 autres raisons. D'abord, le nombre de fois qu'il est resté premier ministre, 3 au total et à chaque fois pour de très courtes durées, 1 mois et 2 jours en 1991, 7 mois et 3 jours entre 1992 et 1993, et enfin 7 jours seulement en avril 1997. Autre raison, c'est aussi par le fait qu'il est resté opposant à tous les régimes depuis les années 80 jusqu'à son décès. Il ne participa à la présidentielle qu'une seule fois, en novembre 2011, une élection qu'il n'est reconnu jamais avoir perdue. Un mérite cependant à mettre à l'actif du président de l'UDPS, selon les analystes, il est resté l'opposant le plus farouche et le plus constant dans ses positions, mais également la personnalité politique nationale qui a beaucoup contribué à l'avènement de la démocratie en RDC.
Merci Donna Madimba. Je rappelle à ceux qui nous prennent en cours que Jean-Pierre Kayembe est au téléphone. Il est journaliste et responsable de la presse numérique à RTGA, une télévision qui émet ici à Kinshasa. Alain Botoko est journaliste, photographe, reporter basé ici à Kinshasa. Il est indépendant. Et Charles Kipingani, journaliste et éditeur du journal Gouvernance Plus, paraissant à Matadi dans le Congo central, qui nous fait l'honneur d'être dans ce studio, sont les invités de la tribune de presse de ce vendredi 3 février 2017. Alors messieurs, pour circonscrire les débats de ce soir,
soir, nous allons aborder deux aspects. D'abord, le parcours politique d'Étienne Tshisekedi dans un premier temps, et dans un second temps, nous parlerons des perspectives d'après lui. Première question d'abord à vous, je m'adresse à vous, Alain. Que retiendrez-vous de Étienne Tshisekedi?
Tshisekedi, c'est plus qu'un phénomène pour moi. Il y a plus de 20 ans que je suis Tshisekedi de près. Cet homme est resté constant dans sa vision, dans sa mission, qui est celle de voir émerger au Congo un état de droit et une gouvernance démocratique. Et ça, il est resté ferme dans cette vision.
En quoi il est phénomène? Parce que c'est la lutte de tous les opposants.
Il est phénoménal parce qu'en fait, il est resté constant dans ce qu'il faisait, quoi. Quelle que soit la tentative de corruption, quel que soit le coup, le défi qu'il faisait face à lui, et il ne pouvait pas céder, il n'a pas cédé jusqu'à sa dernière minute.
Donc pour vous, c'est qui vous a le plus marqué ou c'est pratiquement sa constance?
Bien sûr, parce qu'il y a des exemples pour ça. Tshisekedi revient de la Saint City et on lui propose le poste de vice-président. Il regarde, il dit tout terminé et puis il se dit bon, en fait, moi je ne suis pas fait pour occuper le poste pour poste. Et en fait, les élections sont programmées en 2006 et il sait que le jeu est joué. Il se dit ben en fait, pour moi, ce n'est pas le fait d'être président.
Mais c'est pour ça qu'on a accusé l'UDPS d'avoir manqué un rendez-vous.
Oui, mais ce rendez-vous, il a été manqué, mais quelle était la suite? Lui, il savait voir, c'était un visionnaire, il savait voir un peu plus loin que tout le monde. Il savait que le jeu était joué et que Joseph devait devenir président. Et alors, il s'est dit, bon, est-ce qu'il faut entrer là-bas? Beaucoup de gens l'ont conseillé pour qu'il entre là et qu'il fasse comme ce que Gbagbo a fait avec Gueye en Côte d'Ivoire. Et il a dit, moi, je ne veux pas que le sang d'un seul Congolais coule pour moi pour accéder au pouvoir.
Donc, mais en 2011, il a quand même accepté même si le jeu était joué.
Oui, il a accepté en 2011, mais il y avait un peu plus de garanties pour lui, selon lui. Et aussi, il a subi énormément de pression. Et alors,
c'était de la population ou bien de la communauté internationale?
La communauté internationale en premier, et puis c'était aussi la population. Parce qu'en fait, pour la population congolaise, Tshisekedi incarnait leur espoir. Et je suis sûr que en perdant Tshisekedi, la majeure partie de la population congolaise est sûrement en train de regretter cette mort. Je pense que il faut quelqu'un qui pourra probablement relever ce défi.
Merci, je vous redonne la parole. Jean-Pierre, vous avez suivi les analyses qu'a fait Alain. Êtes-vous d'accord avec tout ce qu'il a dit?
D'abord, pour résumer Tshisekedi, moi je trouve qu'il y a un seul titre que je n'applique a trouvé et que peut toujours être d'actualité aujourd'hui. Tshisekedi, messieurs, non. Enfin, il s'est opposé à tout. Il s'est opposé au Kabila, père et fils, il s'est opposé à Mobutu, il continue à s'opposer. Et malheureusement, il s'est réveillé en retard. Et je donne parfois raison à ceux qui pensent que c'était un homme au rendez-vous manqué. Que de rendez-vous manqués, que de rendez-vous manqués. Et Vincent Titi refuse de prendre le poste. Il demande à ses militants de ne pas s'enrôler en 2005.
Mais les jeux étaient déjà joués, comme l'a affirmé ici Alain.
Comment ça?
Les jeux étaient déjà joués, comme l'a affirmé Alain Botoko tout à l'heure.
Joués par qui? Je ne sais pas. Mais c'était le même système. Il n'a pas voulu adhérer en 2005. Il a appelé ce militant à boycotter, un homme de boycott. Et puis, revient en 2011, un peu plus tard. Et puis, il a vu que Kabila avait déjà de l'ancrage. Il n'a pas su fédérer autour de lui et d'autres candidats d'opposition. Je me rappelle encore de cette longue journée passée à Pétunias par Vital Kamerhe qui a réussi à sa résidence toute une journée sans avoir été reçu. Donc c'est quelqu'un qui ne faisait pas de concessions, qui ne faisait pas de compromis. Et il est resté dans son mythisme. Et donc je note qu'il s'est réveillé en retard quand il comprend que pouvait faire mieux.
D'accord.
Donc,
alors maintenant, qu'est-ce que vous
reconnaissez ça? Ça lutte pour la démocratie, ça lutte pour la liberté et les droits de l'homme. Mais en revanche, il n'a pas su saisir des opportunités parce que le pouvoir, on ne peut bien l'exercer que quand on est dans un secteur d'influence. Il n'a jamais saisi des opportunités.
La ligne est en train de se détériorer. Est-ce que vous pouvez bouger entre temps? Personnellement, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué de la vie d'Étienne Tshisekedi?
Ben, je reste marqué par sa constance, ça tout le monde l'a dit. Tshisekedi n'est pas comme ce jeune Turc ces gens qui font de la prostitution politique, vous m'excuserez les termes, qui sont aujourd'hui et avec le pouvoir, demain dans l'opposition, après demain ils reviennent, même si on sait que la politique est parfois dynamique, mais tu sais que dit, après avoir été un ami de longue date de Mobutu, quand il est quitté, il l'a quitté pour des bons, il n'est plus jamais revenu. Donc c'est un modèle de constance aujourd'hui, un modèle de fidélité pour ses idéaux, il est resté égal à lui-même. Et au-delà de ce qu'il était comme opposant historique, Tshisekedi, c'était un esprit désormais, et les gens se reconnaissaient à lui. Donc il est mort malheureusement arme à la main. Les gens auraient souhaité qu'il occupe ce poste de président du Conseil national de suivi de l'accord. J'aime qu'au crépuscule de sa vie, il a compris qu'il fallait fédérer, et ça c'est la plus grande chose qu'il aura faite de sa vie. Il laisse une opposition, bien que partiellement unie, il laisse une plateforme qui se revendique en lui, qui reconnaît ses valeurs. Et je crois que, comme l'ont dit certains analystes ou certains acteurs sur le plan national ou international, la meilleure façon d'honorer sa mémoire serait de mettre sans complication, de mettre en exécution, en application, l'accord du 31 décembre, même si moi-même je m'étais opposé.
Nous parlerons de ça. Je vous redonne la parole, Jean-Pierre. Charles, qu'est-ce que vous retiendrez d'Étienne Tshisekedi au-delà de tout ce que Alain et Jean-Pierre viennent de dire?
Je retiendrai en Étienne Tshisekedi un homme clairvoyant. J'aimerais dire une chose. Lorsque quelqu'un meurt, nous avons tout le temps jeté des fleurs et nous n'avons jamais rappelé parfois les mauvais parcours que les gens doivent éviter pour ne pas s'en servir d'exemple.
C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Pierre.
Et j'aimerais encore dire que Tshisekedi était un faiseur des rois. Il n'a pas été fait pour être roi lui-même. Il a servi de tremplin politique à certains opportunistes qui pouvaient bien intérioriser sa vision. Vous vous souviendrez qu'à Matadi, par exemple, on a trois élus qui ont été élus pratiquement sous la casquette de Étienne Tshisekedi, un pour le compte de l'UDPS et un autre, Fabrice Puella, qui a été élu grâce seulement au nom d'Étienne Tshisekedi, alors que lui-même n'est jamais arrivé au pouvoir. Et pour avoir été accueilli de manière triomphale, et du fait que le type l'ait facilité la tâche, il a été élu pour la simple raison qu'il a porté Étienne Tshisekedi dans son véhicule. Je ne me mêle pas dans cette histoire de malédiction comme prétendent les autres, qu'il aurait été maudit parce qu'il n'a pas permis à Kassavubu d'aller sous le traitement approprié et à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Mais je me dis que toutes les occasions qui se sont présentées devant Étienne Tshisekedi, je me demande comment il n'a pas été capable de les assumer et gérer quelque part le pays. Et c'est au moment où il était plus important pour la nation qu'Étienne Tshisekedi meurt. Donc c'est là où je confirme. Et je dis même à ceux qui veulent spéculer de ne pas mélanger les choses. Étienne Tshisekedi est mort d'une maladie, c'est vrai, et c'est ça le destin. Dieu n'a pas voulu à ce qu'il puisse gérer. Et tout ce que les gens peuvent encore commenter, je ne vais pas me lancer dans ce débat. Mais ce que je retiens vraiment, Étienne Tshisekedi a servi de tremplin. Beaucoup de gens sont devenus des millionnaires aujourd'hui au niveau de la politique, parce que la politique en RDC, et en tout cas on devient facilement millionnaire grâce à Étienne Tshisekedi.
D'accord. Alain, vous voulez réagir?
Je réponds directement à Charles. Je lui dis que c'est mal connaître Tshisekedi. Donner l'impression que Tshisekedi servait les autres pour devenir
faiseur de roi,
je pense que ça c'est mal connaître Tshisekedi. Tshisekedi, dès la fin de ses études universitaires, il se lance directement en politique. Il était ministre, il a occupé tous les postes qu'il faut. Donc pour lui, le poste, ça n'allait, ce n'est pas quelque chose qui le préoccupait plus. Mais pour Tshisekedi, son objectif c'était quoi? Arriver à faire entrer dans l'intellect du Congolais qu'il y a moyen de gérer le pays autrement. Il y a moyen qu'il y ait la démocratie au Congo.
Sans pourtant recourir au poste ou au pot de vin.
Oui, c'est vrai. Pour lui, la corruption, le mal, ça, ce n'était pas sa préoccupation.
Mais qu'est-ce que vous, alors, vous reprocherez à Étienne Tshisekedi aujourd'hui par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure Jean-Pierre?
Oui, avant d'arriver à ce que Jean-Pierre a dit, je vais parler de ce que Tshisekedi a déjà accompli. C'est-à-dire que si Tshisekedi n'était pas né au Congo, on n'aurait plus beaucoup de complexité aujourd'hui à arriver au moment où nous sommes arrivés. En fait, il y a un accord que lui, Jean-Pierre, refusait de temps en temps quand il intervenait.
On redirait bien grand deuxième partie.
Justement. Et Tshisekedi s'est bâti jour le nuit pour que les hommes et les femmes arrivent à comprendre que sans la lutte, sans se prendre en charge, personne ne peut être libéré. Donc ça, c'est un travail titan. Et quand il dit par exemple que non, il a fait de Mpwela ou de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il va citer autant de noms. Ben, en fait, c'est ce qu'il faut éviter au Congo. Et ça, il ne voulait pas, les opportunistes. Vous profitez d'une opportunité pour devenir politicien. Non, la politique se fait par des hommes et des femmes qui ont une vision, qui ont une mission, qui ont des objectifs à atteindre. Mais si quelqu'un d'autre profite par la naïveté, je ne sais pas, de la population qui n'était pas bien informée ou des autres hommes politiques, ça ne les concernait pas. Donc, lui, il avait un objectif et je suis sûr que Tshisekedi est mort dans l'honneur et il sera respecté.
Voilà. Monsieur rendez-vous manqué, tel qu'a évoqué Jean-Pierre, comment vous analysez cela?
Mais Jean-Pierre ne comprend pas ce qu'était Tshisekedi. Lui, il n'était pas un opportuniste. C'était pas quelqu'un qui voulait le pouvoir pour le pouvoir. Et il aurait tout le pouvoir d'ailleurs. Et je rappelle à Jean-Pierre que Tshisekedi, on l'informe que Mobutu va le nommer ministre dans deux jours et il appelle les services de la présidence, il leur dit vous allez me nommer mais il ne faut pas écrire que moi je dois prêter serment devant Mobutu, je dois gérer pour que Mobutu soit le garant et tout, je ne dois pas le faire, si vous faites ça je vais biffer. Et la voix de l'Amérique a cette information, ils informent la présidence que Tshisekedi va biffer cette mention. Et ils doutent, la présidence dit non, comme il doit être Premier ministre, il ne peut pas le faire. Et il l'a fait. Donc, c'est quelqu'un qui avait une vision. Et je pense...
constance, parce qu'en fait, tel que l'a évoqué Jean-Pierre.
Justement, donc. Et ça manque aux hommes politiques actuels. Donc, il faut rester constant. Il faut savoir ce que vous voulez faire pour demain. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des postes. Il n'y a pas que de véhicules. Il n'y a pas que des maisons. Il n'y a pas que des enfants envoyés en Europe. Il y a toute une nation qui est en train de mourir, qui est en train de disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vise plus nos petits intérêts.
Alors, parlons maintenant un peu rapidement de... Oui, vous voulez dire?
Très rapidement. J'aimerais réagir à Alain. Je pense que nous devons bien interroger l'histoire. Après 1965, qui me disent le poste qu'a occupé Tshisekedi où il a fait une année? Aucun. Donc, c'est là où je me dis, je ne voulais pas me mêler dans ces débats de malédictions et consorts, mais je me dis, après 1965, Étienne Tshisekedi est resté, là je précise, est resté faiseur de roi. C'est vrai qu'il savait, pour nous, si
donc,
nous
jouissons
d'une certaine liberté
au niveau de la presse. C'est le reproche que vous ferez à Tshisekedi.
Oui, bien sûr que oui. Et parce qu'il y a des gens qui peuvent le prendre comme source d'inspiration, mais quand on peut, c'est bien sûr que oui, c'est le combat d'Étienne Tshisekedi nous a été bénéfique tous. Nous, au niveau de la presse, aujourd'hui, si nous jouissons d'une certaine liberté, parce qu'il a aussi contribué
pour quelque chose.
Et donc, Tshisekedi reste un monument, un véritable baobab, un deï international, pour ne pas parler de deï national, parce que son combat a été entendu par tout le monde entier et il a beaucoup contribué pour l'avènement de la vraie démocratie.
Alors, je vous propose d'écouter aussi la réaction de Jean-Pierre par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Jean-Pierre, vous êtes avec nous?
Oui, je vous entends.
À ce niveau du débat, quelle est votre analyse par rapport aux deux approches qu'évoquent Alain et Charles?
Bon, Tshisekedi était juriste, on dit de lui qu'il était le premier docteur en droit.
Ce n'est pas on dit, ce sont les faits.
Mais il a préféré buffer la mention dans l'acte de nomination. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais si je dois reprocher à Tshisekedi aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas su préparer la relève. Il a fait ce qu'il a fait. Mais vous avez vu que tous ceux qui l'ont entouré ont émergé ailleurs. Et aujourd'hui, l'UDPS, c'est une coquille vide. L'UDPS n'existe plus que des noms.
D'accord. D'ailleurs...
a perdu ses principaux cadres qui, aujourd'hui, font la loi dans d'autres partis politiques ou sont devenus eux-mêmes de responsables de partis.
Très bien. Donc, alors, Jean-Pierre...
un manque de management, si vous m'excuserez, ou un ton qui ne... qui ne facilitait pas la collaboration entre ses collaborateurs.
Vous m'avez donné carrément une très belle transition pour poser finalement cette question. Le chef du rassemblement, donc Étienne Tshisekedi, s'en va au moment où les négociations pour la mise en application de l'accord du 31 décembre n'ont pas encore abouti jusqu'à présent. Qu'est-ce qui peut changer selon vous avec l'absence de Tshisekedi? Très rapidement, Jean-Pierre.
Bon, ce qui va changer, c'est que déjà que son nom qui figurait nommément dans l'accord de la Saint-Sylvestre va nécessiter une révision de cet accord. Je vous ai dit la semaine passée sur Radio Capi que je m'étais opposé à cet accord parce qu'il s'attaquait à certains fondamentaux de notre existence. Parce que l'accord était taillé à sa mesure, il va falloir changer. Je vois au niveau du rassemblement, parce que la relève de Tshisekedi, je l'ai dit sur vos antennes, ne viendra pas de l'UDPS. Heureusement qu'il nous laisse une plateforme, le rassemblement, que je considère par moment comme un panier à crabes, vous comprenez. Donc rempli de dinosaures qui ont tous des intérêts et ambitions divergents les uns des autres. Je vois cette plateforme voler en éclats. Juste après Tshisekedi, parce que je veux dire quelque chose. Tshisekedi était patient, Tshisekedi était pacifiste, contrairement à ceux qui ont rejoint sa lutte, qui sont des belliqueux, je dois les dire, parce que la plupart d'entre eux, ils ont fait la guerre, Kamitatou a fait la guerre, Katumbi a fait la guerre, et tous les autres. Donc vous comprenez que la suite va être difficile à supporter.
Merci
bon,
beaucoup.
Ce qu'il faut faire aujourd'hui, on ne peut pas le plus âgé. Le plus âgé au rassemblement, on peut prendre, vous permettez de prendre un peu de parole, parce que les amis qui sont au studio parlent plus que moi.
Il y a un certain nombre de questions qui vous est adressées, souffrez aussi qu'on puisse vous arrêter, mais très rapidement, Alain, qu'est-ce qui va changer après la disparition d'Étienne Tshisekedi?
Comme on le dit partout, hein, donc dans le monde, quand il y a un grand leader qui disparaît, il y a des possibilités. La première possibilité, c'est que les gens se soudent autour de son idéologie, de sa mission, et ils font encore une pression, une grande force qui vaut deux, trois fois.
Alors, Jean-Pierre a évoqué le fait que son nom qui était mentionné dans l'accord par rapport à au Conseil national de suivi de l'accord devrait être biffé. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas dans ce changement qui interviendra?
Je dois ajouter une information à Jean-Pierre qui manque. Mais je voulais dire, le deuxième scénario, c'est que les leaders se biffent entre eux. Ils se disent, bon, moi je suis le meilleur et l'autre le meilleur. Alors, ils disparaissent. Mais je pense que ça ne serait pas le cas pour l'UDPS, mais aussi pour le rassemblement. Ils doivent rentrer en eux-mêmes et porter plus haut la vision de Tshisekedi. Alors, Jean-Pierre, l'information qu'il manque, c'est que les gens qui coordonnent les négociations de la CENCO sont des hommes très intelligents qui réfléchissent. Ce sont des grands docteurs en politique, en sociologie, et ils savent que l'humain est humain. On n'a pas cité les noms de Tshisekedi dans cet accord. On a dit le chef du rassemblement, en fait, le coordonnateur du rassemblement. On peut changer le coordonnateur de regroupement politique. Donc,
merci. Charles, très rapidement, qu'est-ce qui va changer avant d'entrer dans la dernière partie de notre émission?
Je ne vois pas ce qui pourra changer, mais seulement que ça change un peu, ça bouleverse un peu la logique du rassemblement, parce que le mot de Tshisekedi, quand même, il ne pouvait pas sortir, apparaître le même, mais sa parole pesait quand même dans
les négociations
et consorts. Et c'est là où je regrette qui n'arrive pas à occuper son poste. Peut-être que je vais encore concilier cet aspect et cette affirmation par rapport à tout ce que j'ai dit. Étienne Tshisekedi, qui ne pouvait pas, en tout cas qui n'avait pas la chance de gérer, et parce que c'était la grande attente pour lui d'être à la tête de la commission nationale de suivi des accords, de la mise en place des accords, et il n'est pas parvenu. Mais je crois que aujourd'hui, même le rassemblement parfois a fait montrer à la face, en face du monde, qu'ils ont aussi besoin de pouvoir, ils ont besoin de gérer, et les gens se bousculent déjà. Et je crois que c'est à cela qui pourra un peu changer les choses.
Merci beaucoup.
Où certaines personnes de la classe politique au niveau du rassemblement cherchent à se positionner.
Merci beaucoup. Alors très rapidement, cette dernière information qui vient de nous parvenir, c'est le dernier communiqué de la CENCO signé par Monseigneur Marcel Outembi qui demande aux acteurs politiques d'honorer la mémoire de feu Étienne Tshisekedi en faisant aboutir l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pensez-vous que les acteurs politiques peuvent répondre positivement à cet appel? En 10 secondes, Alain.
Ils n'ont pas de choix. Donc, s'ils ne le font pas, donc la population va les pousser et il peut y avoir un autre ordre qui pourra arriver.
Très bien, ils n'ont pas de choix. Charles.
Je regrette de la mauvaise volonté de la classe politique congolaise. Mm-hmm. Je pense que le rassemblement a fait des concessions énormes pour essayer de convaincre la majorité au pouvoir. Mm-hmm. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'insiste, qu'il n'y a pas de gagnants, encore moins de perdants. Cette constitution est claire que le président de la République n'avait plus le temps de rester au pouvoir à ce jour-ci. Et s'il y a eu des concessions qui nous ont conduits à ce niveau ici, en principe, les uns et les autres devaient mettre un peu d'eau dans leur vin pour préserver l'intérêt supérieur de la nation. Et au niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui, et ça nous fait craindre à ce que le pays puisse encore sombrer davantage, et surtout avec l'absence de Tshisekedi qui pouvait encore peser au niveau de cette majorité.
Merci. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qui pourra changer? Vous avez entendu, est-ce que les politiques vont répondre positivement à cet appel? Vous avez entendu Alain dire qu'ils n'ont pas de choix, Charles affirmer qu'ils n'ont pas, il y a la mauvaise volonté de la part de la majorité. Vous, quel est votre point de vue?
Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a désormais une crise de leadership au niveau du rassemblement, parce qu'on ne sait plus qui dit quoi, qui décide autour de quoi. La position ou les positions du rassemblement venaient délimiter, et désormais que le roi délimité n'est plus. Je crois qu'il va d'abord falloir que le rassemblement se réunisse et arrive à dégager des positions par rapport à l'actualité. Mais je reste convaincu que cet accord doit être révisé, encore une fois, parce qu'il s'attaque à certains points fondamentaux de notre État.
Merci beaucoup. Alors, dans cette dernière partie de l'émission, nous parlons de l'après Tshisekedi. Aujourd'hui qu'il n'est plus, Jean-Pierre était déjà en train de le dire à peu près, qui peut aujourd'hui incarner la lutte d'Étienne Tshisekedi d'abord dans son parti? Alain.
Mais je réponds d'abord à Jean-Pierre pour lui dire que on peut plus jamais réviser cet accord-là. L'accord permet aux deux parties d'être 50-50 et travailler comme il se doit ensemble. Donc, si penser réviser cet accord, c'est réduire tout l'effort qu'il faut pour amener un État démocratique au Congo. Pourquoi? Parce que l'ANP devait organiser les élections et n'a pas pu. Donc, elle est dans la faute et ne peut pas réclamer plus que ça.
Très bien. Maintenant, qui peut, selon vous, au sein de l'UDPS incarner la lutte d'Étienne Tshisekedi?
Je l'ai dit, que la première possibilité était qu'ils fédèrent leurs ambitions ensemble et ils se disent, c'est donc des concessions. Donc toi tu peux faire ceci, cet autre pourra faire ça. Et dire qu'il peut, c'est trop anticipé.
Est-ce qu'au sein de l'UDPS il y a des gens qui peuvent incarner cette lutte?
Je crois fermement qu'il y a des hommes qui peuvent incarner. Et je peux citer quelques-uns. Donc il y a Mobake, il y a Félix, ce sont des hommes qui sont aguerris, qui peuvent faire encore mieux plus que ce que Tshisekedi pouvait faire. Quoi. Donc on ne peut pas arrêter un mouvement comme l'UDPS. Je ne pense pas que ça va s'arrêter. Ils vont se faire des concessions et ça va aller un peu plus et ça va amener quelque
chose.
Donc
le parti pour vous ne va pas mourir?
Non. L'UDPS ne pourra jamais disparaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'UDPS est dans tous les coins. Ouais, c'est un parti du peuple et les gens ont adopté ce parti-là, donc c'est impossible.
Merci beaucoup. Charles, très rapidement, qui peut incarner?
Je reconnais et je peux affirmer que Tshisekedi est égal à lui-même. Mm-hmm. Il était en tout cas irremplaçable.
Irremplaçable, pardon.
Il faut que nous le reconnaissions. Après sa disparition, il y a bien sûr son fils qui s'affiche déjà. Et il y a aussi des gens comme les Valentins, comme mon confrère les a cités. Mais dire qu'il y a quelqu'un qui puisse valablement remplacer Étienne Tshisekedi, je ne vois pas.
Très bien.
Alors, sa constance n'est comparable à aucun politicien de la dernière heure aujourd'hui. Mais est-il que c'est la continuité de l'État ou sinon de la politique? Je crois que comme déjà les gens ont fait confiance en son fils, d'ailleurs ils l'ont soutenu jusqu'à la dernière minute pour qu'il soit l'unique candidat qu'on doit présenter selon l'accord qu'ils ont signé le 31 décembre à la cité au centre interdiocésain. Mm-hmm. Donc je crois que Étienne Félix Tshisekedi peut, dans une certaine mesure, remplacer de manière valable son père et voir ce qu'il peut devenir le rassemblement. Mais j'aimerais souligner quelque chose en quelques secondes, c'est qu'en Afrique, on a un petit problème. Quand les leaders meurent, c'est toute la politique qui meurt. Imaginez-vous l'histoire de Mobutu avec tout ce qu'on a...
Les MPR,
avec tout ce qui entourait Mobutu, avec tous les moyens qu'il y avait pour maintenir la survie et la survie du parti. Cela n'a pas été le cas. Vous voyez même les partis laissés par Mouzé.
Je vous redonne la parole.
Celui qui est resté même au pouvoir n'a pas su pérenniser le parti et garder le parti.
Il y a
une crainte qui se présente après la mort de Tshisekedi.
Jean-Pierre, certains analystes craignent qu'il y ait une crise de leadership au sein de l'UDPS. Est-ce que vous partagez cet avis?
Non, mais la crise existait déjà. On sait que Tshisekedi avait été traduit en justice pour des guerres que je ne saurais citer ici. Il a tout fait pour imposer son fils, Félix, qui est très contesté même au sein du parti. Donc, ce qui faisait vivre encore l'UDPS, c'était la présence de Tshisekedi. Et désormais qu'il n'est plus là, donc le parti va voler en éclats. Il y aura des Félix, et puis peut-être Maman Marthe, je ne sais qui encore. Et puis, au même moment, il y a le rassemblement qui va voler aussi en éclats. Parce que je vous disais, cher Berry, que cette plateforme était composée de dinosaures, hein, aux intérêts divergents. Et ils ne sont pas aussi patients que Tshisekedi, donc... Ils voudront toujours se positionner. C'est comme ça que la plateforme va. Donc, il n'y aura pas de relève. Un autre Tshisekedi, on ne l'aura plus. Et ça, je l'ai dit.
D'accord.
On peut toujours avoir une relève, mais pas à l'UDPS. Je vois aujourd'hui, par exemple, des gens comme jeune Diomi Ndongala, qui a été très proche du vieux. Je vois Martin Fayoulou, qui est tout le temps aux premières loges quand il s'agit des manifestations pacifiques. Je vois Franck Diongo, oui. La relève ne viendra probablement pas des UDPS.
Merci. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission, Jean-Pierre, en conclusion, comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC sans Étienne Tshisekedi?
Bon, l'avenir de la RDC, c'est que nous devons avoir des élections. Je savais que Tshisekedi était hors course et qu'il ne devrait pas être candidat aux prochaines élections. Donc nous continuons à lutter pour la démocratie, la liberté et d'autres valeurs universelles. Donc on peut toujours continuer à pérenniser ce que nous avons trouvé de positif en lui, mais rejeter, par exemple, son intransigeance. En politique, il faut arriver à savoir faire des concessions. Et à un moment donné, Tshisekedi ne voulait pas en entendre parler.
Nous prenons ça aussi comme votre conclusion. Alain, très rapidement, comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC sans Étienne Tshisekedi?
Mais je reporte ce que dit la majorité de la population dans la rue. C'est que ces accords-là que Tshisekedi nous a laissés avant qu'il ne meure, il faut maintenir la pression sur les hommes politiques pour que ces accords soient appliqués. Et certaines bouches disent même qu'avant qu'il ne soit enterré, il faut que ces accords soient appliqués. Et nous demandons à la CENCO de continuer à faire son travail, à la communauté internationale de pousser les Congolais, parce qu'en fait, la situation que nous vivons au pays, elle est anormale. Donc on est hors mandat partout, toutes les institutions sont hors mandat. Or, ce qui donne la survie du pays, c'est cet accord-là. Donc, on doit
l'avenir
tenir.
L'avenir de l'UDPS, c'est le peuple. L'avenir de la RDC, c'est le peuple.
Je pense. C'est la population qui va déterminer l'avenir. Donc, c'est pas
les hommes politiques.
Non, c'est pas les hommes politiques.
Merci beaucoup, Charles. Très rapidement, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC sans Étienne Tshisekedi?
Non, nous gardons d'abord bon souvenir à l'endroit d'Étienne Tshisekedi, et je crois que le pouvoir en place ne doit pas réagir des mesures, des manœuvres pour continuer à violer la Constitution, parce que cet homme qui vient de nous quitter était un grand gardien de la Constitution. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour que cette Constitution, qui a bien malheureusement a toujours été violée, ne continue pas à être violée et violentée.
Merci
pour le dire en ces termes. Donc, et que le rassemblement, un petit conseil à l'UDPS et au rassemblement en particulier, c'est de s'accepter. Vous savez que Kamera a été contesté parce qu'Étienne Tshisekedi voulait rester laissé le maître à bord, et maintenant que le parti, que ceux qui continuent dans la liste de l'opposition puissent avoir l'idée de s'accepter. Et c'est dans cette mesure qu'il pouvait encore beaucoup mieux s'unir et puis faire avancer les pays.
Merci beaucoup. Ce sera aussi la fin de la tribune de presse de ce soir. Merci à Héritier Tibiakala qui était à la prise de son, Alain Héroum qui a coordonné cette édition supervisée par Pélékité Lamondo. Berry Franklin Louchaka vous dit merci de nous avoir suivis. Remarques et suggestions, n'hésitez pas, envoyez-nous un email à dec@radiocapi.net et surtout retrouvez votre émission sur www.radiocapi.net. Merci de rester fidèles au programme de la radio de la paix. Bon week-end à vous tous.